Et pour terminer, certains n'ont pas encore tout à fait terminé leur dossier de candidature administratif. Donc il y a des rendez-vous qui sont encore en cours avec Cyril de Monclin pour les rendez-vous pédagogiques. Donc vous aurez tous vu Cyril de Monclin tôt ou tard. Et puis Guillaume Degnaud et moi-même, pour ceux qui sont en relation avec moi, pour compléter toute la partie administrative qui est assez importante, sachant qu'il y a par exemple le voyage au Vatican à Rome qui est en train de se caler, et il y a des photocopies de vos passeports, des choses comme ça qui sont importantes d'avoir dès maintenant. Voilà. Donc on a dit tous les aspects pratiques et techniques.
Très très bien. Voilà. Donc, place. Cyril, la parole pour le conférencier.
Salut, Cyril, merci d'avoir accepté de nous initier donc à la foi juive, orthodoxe, pacifique, réformée. Vous êtes de métier journaliste, écrivain. Vous êtes aussi administrateur du consistoire central d'Israël de France. Vous avez collaboré ou vous collaborez actuellement à beaucoup de périodiques et de journaux américains ou anglais. Ou français. Vous animez et vous présidez l'Institut Jean-Jacques Rousseau, donc qui est un institut donc, qui est dédié à la géopolitique, sur les questions stratégiques et géopolitiques. Ce que nous allons aborder aujourd'hui, donc, voilà, il était bon de vous permettre de prendre contact avec qu'est-ce qu'est le judaïsme religieux, parce qu'il y a un judaïsme culturel, il y a aussi un judaïsme religieux. Le judaïsme, c'est une religion, et c'est aussi un ensemble de rituels, de pratiques, de croyances, de valeurs, de loyauté historique et politique qui constituent l'allégeance au peuple d'Israël, selon Daniel Boyarim. Donc, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les fondamentaux du judaïsme? Quelles sont ses ramifications? Quels sont ses courants principaux? Quelles sont les doctrines qui sont portées, qui sont à l'œuvre? Voilà, jusqu'à comment comprendre ces différentes composantes du judaïsme aujourd'hui? Voilà, je vous laisse la parole, je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie. Avant toute chose, je tiens à dire que ce que je dirai ce soir n'engage que moi, c'est-à-dire que, effectivement, j'exerce certaines responsabilités au sein de la communauté juive. Ce n'est pas au nom de ces responsabilités que je vous parle ce soir. Le point de vue que je vous présenterai, c'est un point de vue, je dirais, aussi neutre et aussi objectif que possible, ou plus exactement, aussi subjectif par rapport à mes propres opinions, à ma propre recherche. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, commencer par un certain nombre de remarques générales. De remarques peut-être très générales, mais cependant nécessaire, parce que je crois que certains éléments des débats entre courants du judaïsme contemporain ne peuvent prendre tout leur sens que par rapport à quelques fondamentaux. La question que vous avez certainement déjà abordée, c'est finalement le judaïsme, qu'est-ce que c'est exactement? Tout le monde sait que c'est une religion, mais que ce n'est pas seulement une religion. Tout le monde sait que c'est un peuple, une ethnie, une ex-nation, une proto-nation, une nouvelle nation, on va dire un groupe humain cohérent, dont beaucoup de caractéristiques d'un point de vue anthropologique ne sont pas strictement religieuses. Il y a donc une religion et un peuple. En fait, je crois qu'il faut admettre que nous avons dans le cas du judaïsme ce que l'on pourrait appeler un apax. Vous savez que dans l'étude de la Bible, par exemple, il y a des mots
La Bible est écrite essentiellement en hébreu, je parle de l'Ancien Testament. La plupart des mots sont des mots qui reviennent au moins plusieurs fois dans l'ensemble du texte, mais il y a de temps en temps un mot qui n'intervient qu'une seule fois, qu'on ne connaît que par une seule occurrence. On l'appelle un apax, c'est-à-dire un cas unique. Et bien, de la même manière, en termes de sociologie des religions, ou si l'on préfère aussi en termes de géopolitique, le judaïsme, le peuple juif, est un apax, c'est-à-dire quelque chose de totalement singulier. La Bible elle-même propose une définition assez particulière, mais en même temps assez intéressante, de ce qu'est le judaïsme. Au livre de l'Exode, à un certain moment, la référence exacte c'est 19, chapitre 19 et verset 6, Dieu s'adressant à ce qui devient le peuple d'Israël, qu'on appellera par la suite le peuple juif, dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres ». Et ceci a été interprété de diverses façons. Il est très intéressant de voir que l'un des plus grands commentateurs du judaïsme, qui était français, le célèbre Rabbi Salomon Isaac de Troyes, c'est-à-dire Rashi, ne traduit pas « royaume » par « royaume », mais dit « vous serez pour moi une famille de prêtres ». Donc il insiste sur le caractère, en quelque sorte, de communauté vivante, de communauté charnelle, organique. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres ». Alors je vous propose une sorte d'image. Ce que je vais vous dire n'est pas strictement vrai, mais c'est quand même une image parlante. Et c'est une image que j'emprunte à la religion qui reste encore la religion la plus importante et la plus suivie en France. Je parle à la religion catholique. Dans la religion catholique, vous savez très bien qu'il y a d'une part les laïcs, qui forment la majorité des catholiques, et il y a les prêtres qui forment une minorité. Tout le monde sait que les laïcs comme les prêtres ont part égale au salut. Tout le monde sait qu'il peut y avoir des laïcs qui atteignent à la sainteté et en revanche des prêtres qui sont susceptibles d'être damnés. C'est la vision catholique traditionnelle. Néanmoins, je reste dans la vision catholique, on a besoin d'un prêtre, parce que le prêtre seul peut assurer les sacrements qui assurent le salut. Eh bien, encore une fois, c'est une image, hein, en termes de pensée, de philosophie, de théologie, vous ne trouverez pas exactement ce que je viens de vous dire, cette comparaison telle que je viens de vous la faire. Mais je crois qu'en termes d'image, il n'est pas inexact de dire que la conception, le fameux royaume de prêtres, ça veut dire ceci: le peuple d'Israël sert de peuple, de prêtre, de catégorie sacerdotale pour l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité, dans la vision du judaïsme, a accès au salut, qu'on appelle en termes juifs le monde qui vient, le monde futur si vous voulez, mais le vrai terme hébraïque c'est le monde qui vient, ce qui ouvre toutes sortes d'interprétations et d'appréhensions du salut un peu plus large que simplement la vie future. Toute l'humanité a accès à ce monde qui vient, mais pour pouvoir y atteindre, on a besoin de prêtres, on a besoin de ce royaume de prêtres, on a besoin que le peuple d'Israël accomplisse sa mission. Donc, la fameuse élection du peuple juif, c'est-à-dire le fait que le peuple juif soit mis à part et reçoive un certain nombre d'obligations qui ne sont qu'à lui, elle est conçue expressément dans le judaïsme comme le moyen d'assurer le salut à l'ensemble de l'humanité. Puisque je parlais de salut et que je disais que le prêtre catholique, et les catholiques parmi vous pourront bien entendu me corriger si je me trompe, mais puisque les prêtres catholiques assurent aux catholiques les sacrements, Je vais faire une seconde comparaison, une seconde image, encore plus audacieuse que la première que je viens de faire, vraiment très audacieuse, mais je crois vraiment que c'est une image qui peut parler. Je pense que dès qu'on aborde le judaïsme, on est frappé par le fait que le judaïsme est une loi. Trop longtemps, le monde chrétien a eu tendance à opposer le judaïsme, religion de la loi, au christianisme qui aurait été la religion de la foi. Aujourd'hui, heureusement, je crois qu'il y a eu beaucoup une compréhension bien meilleure. On ne peut que s'en réjouir, on ne peut qu'avoir beaucoup de respect pour la démarche qu'a pu faire le monde chrétien depuis 50 ans, 70 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que les commandements, les obligations si nombreuses qui sont dans la Bible, qui littéralement ou pas littéralement sont toujours présentes dans la vie des juifs pratiquants d'aujourd'hui. Prenons quelque chose de très simple, un commandement comme celui de respecter le jour du Shabbat, ou un autre exemple tout aussi simple, le commandement d'avoir une alimentation extrêmement réglementée. Alors, ces fameux commandements, en fait, quand on analyse le mot qui est employé en hébreu, le mot mitzvah, c'est un mot qui implique une certaine notion de participation. Il pourrait y avoir, en hébreu, on aurait pu dire que les commandements sont des décrets divins, je dirais même des décrets arbitraires. Et de fait, certains de ces commandements sont décrits par les penseurs du judaïsme comme des décrets souverains de Dieu dont le sens véritable échappe complètement aux humains. Mais le mot qu'on emploie clairement, c'est le mot de mitzvah. Alors il y a dans le mot de mitzvah la lettre M qui est le commencement de ce mot. Et la lettre M en hébreu implique toujours une certaine notion de participation. Et je pense que on peut, ce n'est qu'une image encore une fois, mais je pense que c'est une image légitime, dire que l'application de ces fameux commandements et l'étude de ces fameux commandements joue pour les juifs exactement le rôle que les sacrements peuvent jouer pour les catholiques. C'est-à-dire que accomplir un commandement divin, ce n'est pas pour un juif simplement appliquer la loi de Dieu et puis c'est terminé, c'est réellement entrer en communication avec Dieu, je n'irai pas jusqu'à dire communier, trop d'images tuerait l'image, n'est-ce pas? Mais c'est quand même cela, on communique avec Dieu, on est dans une participation avec Dieu à travers la réalisation de ce fameux commandement, de cette fameuse mitzvah. Alors, ce que je viens de vous décrire, c'est le noyau fondamental du judaïsme. Ce noyau fondamental, on le voit dès, en fait, le texte biblique. Le texte biblique parle sans arrêt, je dirais presque de manière obsessionnelle, de l'obligation de suivre l'enseignement de Dieu, d'appliquer les commandements de Dieu. Il présente cela comme étant constitutionnel ou constitutif, si vous voulez, de la mission du peuple d'Israël. Tout ce que nous allons voir par la suite, c'est-à-dire la déclinaison historique du judaïsme, ce ne sont que, je dirais, une manière de vivre ou d'appliquer ce noyau central. Mais ce noyau central est toujours là. Il y a, nous allons le voir, diverses manières de vivre son judaïsme, et toutes ces manières convergent finalement sur le fait qu'il y a des commandements divins et que ces commandements divins impliquent un mode de vie en conjonction avec Dieu. C'est cela que ces commandements impliquent. Je voudrais, à propos de ces commandements, insister, parce que cela va avoir beaucoup d'importance pour la suite de notre propos, insister sur le fait que, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens, j'insiste. Dans le commandement divin, il y a l'acte par lequel on accomplit ce commandement, mais il y a également important, et on peut même se demander si ce n'est pas plus important, l'étude de ce commandement. C'est-à-dire quelque chose d'intellectuel, quelque chose de spirituel, une concentration de l'esprit sur ce commandement. Pourquoi l'étude, d'une certaine manière, est-elle supérieure à l'acte même ? Eh bien, pour une raison quand même tellement évidente que ça fait tout drôle de la mentionner. Selon la tradition juive, il y a 613 commandements dans le texte qui fait autorité, c'est-à-dire le texte du Pentateuque, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Ces cinq premiers textes ont un statut tout à fait particulier dans le judaïsme. Ils sont considérés comme ayant été entièrement et totalement dictés par Dieu, ils sont considérés comme ayant un sens spirituel absolu. Les autres textes de l'Ancien Testament ont une valeur, je dirais, inspirée, mais considérée comme inférieure au Pentateuque, au Chumash en hébreu, les cinq premiers livres de la Bible, si vous préférez, de la Torah. Dans ces cinq livres que vous connaissez, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, à certains moments, il y a un commandement qui est donné par Dieu. Cela va du commandement le plus sublime au commandement le plus trivial. Tous ces commandements, les rabbins sont d'accord pour dire qu'il y en a 613, mais il y a des listes différentes qui circulent quant à savoir ce que sont réellement les 613 commandements. Mais il n'en reste pas moins que, traditionnellement, on considère qu'il y a 613 commandements, et tous ces commandements sont considérés comme égaux entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on pourrait imaginer par exemple que les fameux 10 commandements, le décalogue, ont un statut supérieur aux autres commandements, la tradition juive estime que non. Que les 613 commandements extrêmement diversifiés que vous pouvez avoir dans le Pentateuque sont tous égaux entre eux. Or, ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est que une très grande partie de ces 613 commandements, et probablement la majorité de ces commandements, eh bien, c'est très simple, il est absolument impossible que tous les Juifs les accomplissent. Pourquoi ? Parce qu'un très grand nombre de ces commandements concerne le culte. Quand je dis le culte, c'est au sens le plus technique du terme, le service religieux accompli dans le temple par les prêtres au sein des prêtres. Il y a une catégorie de prêtres, les kohanim, qui sont les prêtres au sein des prêtres. Vous avez, il suffit de lire la Bible, il suffit de lire le livre du Lévitique pour se rendre compte, une partie considérable du texte du Pentateuque concerne le service du temple, c'est-à-dire les sacrifices, c'est-à-dire toutes sortes de cérémonies, toutes sortes de lois de pureté ou d'impureté qui sont toutes liées au temple. Or, ces lois, jamais, moi je ne suis pas Cohen, je ne suis pas prêtre, donc à supposer que le temple existe maintenant, ces lois ne me concernent pas directement. Jamais je ne serais autorisé à appliquer ces lois. Mais par l'étude, en fait, je peux quand même, en quelque sorte, vivre dans ces commandements et aller au fond de ce qu'il y a dans le commandement, dans l'énergie spirituelle ou dans la rencontre avec Dieu qu'il y a dans le commandement. De nos jours, ce qui complique encore les choses, c'est que il n'y a pas de temple. Il y a eu un premier temple qui a duré environ 400 ans, un deuxième temple qui a duré environ 400 ans, et depuis à peu près 1900 ans, il n'y a pas actuellement de temple. Donc, tout ce que l'on peut lire, étudier, apprendre sur le service du temple est virtuel, n'est pas actuel. Donc, à plus forte raison, on a accès à ces commandements qu'à travers l'étude. Ne serait-ce que par là, on peut comprendre que l'étude soit supérieure même à l'accomplissement des commandements. Il y a un petit texte que, avec votre permission, j'aimerais bien vous lire, parce qu'il résume, très joliment les choses. C'est un texte que les juifs pratiquants disent absolument tous les matins. Alors, attendez que je le retrouve, si vous m'accordez une seconde.
Chemin Israël.
Non. C'est le meilleur. Alors voilà. Donc c'est un texte que un juif religieux dit absolument tous les matins, aussi bien les jours de semaine que le jour du Shabbat. Et voilà ce texte. Voici les choses dont l'homme mange en quelque sorte le revenu dans ce monde-ci et dont le capital lui est octroyé dans le monde qui vient. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? C'est une image très homo economicus, n'est-ce pas? Vous avez votre capital et les revenus de votre capital. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on est doublement récompensé. On est récompensé dans ce monde-ci et on est récompensé dans le monde qui vient. Et ces choses sont... Alors, elles sont Kibud Avaem, le fait de respecter son père et sa mère. Gemilut Hasadim, c'est-à-dire, on va dire, la bonté, les actes de bonté envers son prochain. Ashkamat Bet Amidrash Shaharit Ve'arvit, le fait d'aller à la prière le matin et le soir. Achnasat Orachim, l'hospitalité. Bikur Cholim, le fait de rendre visite à des malades. Arnasat Kala, le fait de veiller à ce que toutes les jeunes filles puissent se marier. On considérait, au moment où ce texte a été écrit, que c'était toujours plus problématique pour une jeune fille de se marier que pour un jeune homme. Vayat Amet, le fait d'assurer l'inhumation d'un défunt. Yun Tfila, le fait de prier avec concentration. Avat Shalom Ben Adam Lechavero, le fait d'assurer sans cesse la paix entre un être humain et son prochain. Et on termine par ceci, Ve Talmud Torah Keneged Kulam, et le fait d'étudier la Torah, ça a la même valeur que l'ensemble de tout ce qu'on vient de dire. Je vous lis ce texte simplement pour insister sur l'importance considérable de l'étude dans le judaïsme traditionnel. Il y a eu sans cesse dans le judaïsme il y a eu sans cesse des divisions, des débats, des querelles, des schismes, des scissions, des arborescences. Un passage très célèbre du Talmud dit que les disputes entre ceux qui se préoccupent de Torah apportent la paix dans le monde. C'est une manière élégante de, je dirais, de colmater la brèche, mais ce que cela signifie aussi, c'est que les querelles, les disputes, les différences, les divergences ont toujours fait partie du judaïsme. Il n'en reste pas moins que il y a une continuité entre une certaine forme de judaïsme que nous allons appeler, faute de mieux, orthodoxe, qui a pris forme, si vous êtes juif orthodoxe vous-même, vous considérez qu'elle a pris forme dès la révélation du Sinaï. Si vous n'êtes pas juif orthodoxe, vous optez pour une vision plus historique ou plus historisante des choses. Donc vous allez en tout cas admettre que l'on voit clairement cette vision du judaïsme s'imposer de manière cohérente à peu près à l'époque du deuxième temple et à peu près sous la forme, le terme était très longtemps décrié en Occident et depuis encore une fois 50 ans, 70 ans, il a été réhabilité. Elle a pris forme à travers un courant du judaïsme que l'on appelle les pharisiens et qui est considéré comme l'ancêtre direct de la plupart des judaïsmes modernes. Je voudrais, avant d'entrer dans le détail des choses, je voudrais dire simplement que la vision orthodoxe, d'abord, c'est que on se concentre sur les commandements. C'est-à-dire que la base de tout, ce sera l'exécution des commandements pratiques et concrètes, ou bien l'étude de comment on peut exécuter les commandements. Mais le concret des commandements l'emporte sur tout le reste. Ce n'est pas la philosophie ou la théologie qui est au cœur du religieux juif, c'est la pratique dans ce qu'elle a de plus concret. Et pourquoi, je dirais précisément philosophiquement, parce que Dieu nous donne les commandements à travers des choses concrètes. Donc, si l'on veut être dans le fil de ce que Dieu dit, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de réaliser le plus exactement les choses concrètes qu'il demande. La manière concrète de pratiquer ces commandements, qui est vraiment l'ossature, la colonne vertébrale donc du judaïsme traditionnel, elle est transmise et je dirais sans cesse adaptée par trois moyens. Le premier moyen, c'est une chaîne rabbinique, c'est-à-dire que nous voyons prendre forme dès l'époque du deuxième temple, nous voyons prendre forme une tradition au sens le plus exact du terme, c'est-à-dire nous voyons des maîtres qui ont des disciples, qui eux-mêmes ont à leur tour des disciples, et donc on peut, si l'on est juif orthodoxe, on peut croire, on peut admettre que ce que l'on apprend aujourd'hui vient directement des maîtres et a été transmis fidèlement de maître à disciple. Ces maîtres, lorsqu'un maître est considéré comme autorisé, il devient ce que l'on appelle un rabbin. En fait, le terme peut varier selon les époques et selon les lieux, mais la chose, elle, ne bouge pas. Un maître qui est en mesure d'enseigner et d'être suivi à des disciples et c'est ce que l'on appelle la chaîne de la tradition rabbinique. Deuxièmement, entre les rabbins, ou les maîtres, ou les sages, vous employez le terme que vous voulez, pour simplifier, nous allons dire les rabbins, entre eux, il y a un consensus qui se forme, et qui se forme notamment dans chaque génération. Il peut aussi se former sur une base géographique, c'est-à-dire dans tel endroit, on se met d'accord sur certaines choses, dans tel autre endroit, sur d'autres choses. Cette notion du consensus est aussi importante que la notion de la tradition. À quoi voyez-vous qu'un livre fait autorité pour un juif traditionnel? Eh bien, vous le voyez simplement parce que quand vous ouvrez ce livre, il y a à la première page un texte. Il n'y a pas un imprimatur comme dans le monde catholique, par exemple, mais vous avez une lettre par une autorité rabbinique reconnue qui dit, voilà, j'ai lu l'ouvrage de mon estimé confrère ou bien de mon jeune étudiant, etc. Je trouve, généralement c'est toujours écrit de la même façon, je trouve que cet ouvrage est très brillant et inspire beaucoup de choses. Peu importe la manière dont c'est tourné, l'essentiel est que l'ouvrage a été lu, a été approuvé, et sans cette lecture et cette approbation, vous n'avez pas de valeur sur le plan religieux attribuable à ce texte, ou à cette décision, ou à cette pratique. Enfin le dernier aspect de tout cela, c'est que il y a nécessairement reconnaissance mutuelle de la légitimité de toutes les décisions qui ont été prises. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences importantes entre la décision de tel rabbin et donc la manière de pratiquer le judaïsme à tel endroit et la décision de tel autre rabbin et donc la manière de pratiquer le judaïsme à tel endroit ou à telle époque. Mais il y a reconnaissance mutuelle de la validité de ce qui a été décidé. Eh bien, une fois que j'ai décrit tout cela, il y a certainement des juristes parmi nous. S'il y a des juristes parmi nous, ceux-ci reconnaîtront exactement le modèle que je viens d'exposer. C'est le modèle, vous savez qu'il y a deux formes en gros de droit. Il y a le droit écrit romain ou napoléonien, et il y a ce que l'on appelle la common law, c'est-à-dire le droit anglo-saxon. Clairement, le judaïsme fonctionne comme une common law. L'orthodoxie n'est pas fondée sur des dogmes, elle est fondée sur une pratique, sur une sorte de contrôle permanent entre pairs et d'appréciation permanente des précédents. C'est à partir de l'opinion des pères et à partir des précédents que les décisions se prennent. Chaque époque est amenée à prendre des décisions. On présente souvent le judaïsme comme quelque chose qui ne bouge pas, qui est immobile. Rien n'est plus éloigné de la réalité. Il y a des évolutions permanentes, même si certaines choses, effectivement, ne bougent pas ou bougent peu. Je signale ce point parce qu'il est assez intéressant. Lorsque vous lisez le Talmud, c'est la mise en forme de la tradition rabbinique, juste après la clôture du canon biblique. Quand vous lisez le Talmud, il y a quelque chose de très frappant. Il y a des traités entiers du Talmud où on vous décrit la manière de pratiquer, par exemple, je donne ça un exemple parmi d'autres, comment pratiquer certaines fêtes qui se pratiquent sous vos yeux aujourd'hui. La fameuse fête des cabanes, par exemple la fête de Sukkot qui a lieu. Bon, alors c'est une fête assez spectaculaire, on construit une cabane dans laquelle on n'habitera que pendant une semaine. On crée un faisceau de plusieurs espèces végétales. Tout cela est décrit dans le Talmud et il vous suffit de prendre ce qui est décrit dans le Talmud, vous avez réellement ce que vous faites aujourd'hui, en 2014. Alors que le Talmud a été écrit quelque part au début de l'ère chrétienne. Ça a été mis par écrit en tout cas. Et ce qui est frappant, c'est que vous avez d'autres traités juste à côté où on vous décrit des choses tout à fait essentielles, comme par exemple les rites funéraires. Et alors vous avez l'impression d'être sur une autre planète, sur une planète totalement différente. Alors je crois que c'est très intéressant de voir les deux choses, parce que c'est à travers ce genre de choses que l'on comprend à quel point le judaïsme certainement est conservateur, mais en même temps, le judaïsme est très évolutif. Il y a autant d'évolution que de conservatisme dans le judaïsme. Et là, je parle du corps essentiel du judaïsme. Alors, je vous propose maintenant un petit croquis qui n'est pas très compliqué. Nous allons faire trois cercles concentriques. Ce croquis... Il est vieux comme le judaïsme, ou en tout cas comme le judaïsme moderne. Je cite textuellement un discours célèbre d'un grand rabbin de France qui s'appelait Jacob Kaplan, qui a été grand rabbin dans l'après-guerre. Et alors, ce qu'il disait à peu près, il disait que le judaïsme, c'était trois cercles concentriques. Vous aviez au centre un noyau de juifs que nous allons, on va parler français, on va les appeler les juifs pratiquants. On pourrait dire aussi bien les juifs orthodoxes, ou encore, pour employer une expression qui est très courante, orthopraxes, c'est-à-dire qui accomplissent les commandements de la manière traditionnelle. La manière d'interpréter est très secondaire dans le judaïsme. Ce qui est important, c'est comment on pratique les actes et comment on étudie la manière de pratiquer les actes. C'est ça qui est important, beaucoup plus que toute philosophie, théologie ou mystique que l'on construit là-dessus. Donc, les juifs pratiquants. Alors, les juifs pratiquants, selon le grand rabbin Jacob Kaplan, c'est le cœur du judaïsme. Je crois que anthropologiquement, c'est très vrai et nous allons le voir dans deux minutes. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de juifs sont à la périphérie des précédents. Excusez-moi, je n'écris pas très bien, mais j'espère que vous me lisez à peu près. Je vais les appeler les juifs identitaires. Qu'est-ce que c'est qu'un juif identitaire? Un juif identitaire, on peut le décrire comme quelqu'un qui n'est pas strictement pratiquant, qui prend beaucoup de liberté par rapport à ce que requiert la pratique religieuse, mais qui tout de même a un sentiment très fort qu'il appartient à ce fameux peuple juif, que cela implique, même si personnellement il ne se sent pas très religieux, un certain nombre d'actes à caractère religieux. Et il y a quand même une chose qui reste fortement avec lui, c'est qu'il se dit que la chose la plus importante de sa vie, c'est de transmettre cette identité, même si cette identité apparaît comme relativement vague pour un juif strictement pratiquant. Enfin, vous avez une troisième catégorie, encore plus périphérique. Je vous propose de les appeler les juifs de mémoire. Qu'est-ce que c'est que les juifs de mémoire? Eh bien, c'est des gens qui ne sont pas strictement pratiquants, qui même parfois ne connaissent rien du tout à la pratique de la religion juive, qui n'ont pas une notion très claire de leur propre identité juive. Ce qu'ils savent de plus à propos du judaïsme, c'est qu'il y a un problème juif et qu'il faut essayer de comprendre ce que c'est que le judaïsme. Mais il reste quelque chose, et ce quelque chose a beaucoup d'importance. Un grand poète russe, d'origine juive, aussi Mandelstam, qui s'était converti au catholicisme, c'est très original pour un russe de se convertir au catholicisme, et c'est original pour un juif russe de se convertir à une autre religion. Ossip Mandelstam, converti au catholicisme, il s'était converti au moment de la révolution d'octobre, ce qui était encore plus original, n'est-ce pas, a eu une phrase de poète. Il a dit: le judaïsme, c'est comme un clou de girofle. Il suffit d'un seul clou de girofle dans votre armoire et elle parfume de manière indélébile tout votre linge. Eh bien, il y a beaucoup de juifs, personnes d'origine juive, pour qui n'ont pas été élevés réellement dans la religion juive, qui n'ont même pas été élevés dans le chaud cocon de, je dirais, de la convivialité juive, mais il y a quelque chose qui reste, il y a une mémoire qui reste, et cette mémoire va être suffisante pour que, de manière constante, il y ait de leur part des retours. Et ensuite, les juifs identitaires, eux aussi, peuvent connaître des retours. La notion de retour, en hébreu teshuvah, peut avoir le sens de pénitence, mais peut avoir aussi le sens vraiment propre de retour, c'est-à-dire de revenir à quelque chose que l'on aurait quitté ou que l'on aurait perdu. Et cette idée de retour est une idée extrêmement importante dans la conscience juive. Aujourd'hui, en 2014, si l'on additionne les juifs pratiquants, les juifs identitaires, les juifs de mémoire dans l'ensemble du monde, combien y a-t-il de juifs ? C'est très difficile de répondre à cela, je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi c'est difficile, mais je dirais que il y a probablement 10 millions de juifs qui correspondent plus ou moins aux juifs pratiquants ou aux juifs identitaires proches des juifs pratiquants. Il pourrait y avoir jusqu'à 15 millions de juifs pratiquants et identitaires. Et il y a probablement une périphérie plus lointaine de gens qui ont un souvenir de leurs origines juives, un souvenir tenace, et qui vont être amenés à certains moments à s'identifier avec le peuple juif, même quand, pendant les trois quarts de leur vie, ils semblent avoir été vraiment très éloignés de ce fameux peuple juif. Vous allez voir dans une minute que ces chiffres ne sont pas du tout arbitraires. Ils correspondent, dans beaucoup de cas, à un certain nombre d'analyses qui ont été faites. Alors, dans ce monde juif moderne, contemporain, il y a tout d'abord une grosse communauté qui s'est formée au cours des 66 dernières années, ou un peu plus. Elle a eu une préhistoire qui remonte à la fin du 19e siècle. Je parle évidemment de la communauté juive israélienne. En Israël, il y a à peu près 80% de la population qui est juive, qui est définie comme juive. Ça a des conséquences légales et politiques, puisque Israël a maintenu le système en usage dans beaucoup de pays d'Orient, selon lequel l'ensemble de la population est classifiée selon des communautés religieuses. On trouve exactement le même système dans les pays arabes voisins. Il y a aujourd'hui en Israël à peu près 8 millions d'habitants. Je parle bien entendu de l'État d'Israël seulement, je ne parle pas du tout des territoires palestiniens, quel que soit leur statut. En Israël, proprement dit, il y a à peu près aujourd'hui 8 millions d'habitants. Et sur ces 8 millions d'habitants, il y a un peu plus de 6 millions d'habitants qui sont des juifs, qui sont définis comme juifs. Ça a des conséquences pour eux. Une des conséquences, c'est que pour eux, comme pour les autres communautés israéliennes, le statut personnel, c'est-à-dire le mariage, le divorce, passe par les autorités religieuses. Certains Israéliens en sont contents, certains juifs israéliens n'en sont pas contents, mais c'est la loi et le système. Donc, Israël, on va dire qu'il y a un peu plus de 6 millions de juifs. Ensuite, vous avez une autre communauté, c'est l'Amérique. Quand je dis l'Amérique, c'est l'Amérique du Nord. On considère que les États-Unis et le Canada, sur plan sociologique, ne forment qu'un seul ensemble, ne serait-ce que la langue anglaise qui les réunit. Il y a cependant des différences assez importantes sur beaucoup de plans entre les Juifs canadiens et les Juifs des États-Unis, mais on va considérer tout de même ce monde-là comme un ensemble. Alors, c'est là que nous allons voir que ce que nous disions sur les trois cercles concentriques n'était pas du tout arbitraire. Selon certaines études, il n'y aurait aujourd'hui en Amérique du Nord que 4 millions de juifs. Selon d'autres études, il y aurait 7 millions et demi de juifs actuellement en Amérique du Nord. Je vais commencer tout de suite par l'étude qui dit qu'il y a 7 millions et demi de juifs en Amérique du Nord. C'est une étude qui a un an, qui a été publiée le 1er octobre 2013 et qui a été faite par le très célèbre Institut Pew. Vous savez que c'est un institut, une fondation américaine qui se livre à un travail absolument titanesque d'analyse des opinions, des comportements, des attitudes culturelles et politiques dans le monde entier. Donc il y a des études Pew sur tout. Il y en a sur l'Europe, il y en a sur la sexualité, il y en a sur les juifs, il y en a sur les musulmans. Il y a des études de Pew sur tout et ça, c'est devenu depuis quelques années une espèce de référence à peu près incontournable. Et l'étude Pew dit ceci. Elle dit qu'il y a 7 millions et demi de personnes en Amérique du Nord qui, lorsqu'on pose la question « Finalement, êtes-vous juif ?» disent « Je suis juif ». C'est quand même assez important, ça, l'acte volontaire par lequel on dit « Je suis juif ». Seulement, sur ces 7 millions et demi, il y en a beaucoup qui sont difficilement considérables comme juifs par les juifs les plus pratiquants, les juifs les plus orthodoxes, ou même par les plus pratiquants parmi les juifs non orthodoxes, les juifs dits massortis ou réformés. En effet, par exemple, dans le judaïsme orthodoxe, est censé être juif une personne dont la mère est juive, pas le père, la mère, ou bien qui se serait converti au judaïsme à travers une conversion orthodoxe. C'est la définition orthodoxe de qui est juif. Si l'on retient cette définition-là, on descend à 4 millions de juifs seulement en Amérique du Nord, et certains disent moins de 4 millions. Seulement, si l'on inclut les juifs, les personnes qui se déclarent juives tout en ne répondant pas à la définition orthodoxe. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui sont nées de père juif, mais pas de mère juive. Les personnes qui se sont converties au judaïsme, mais pas à travers le judaïsme orthodoxe. Voire même des personnes qui n'appartiennent pas à une synagogue, mais qui décident que je suis d'origine juive, je suis de culture juive, je suis juif. Alors, quand on additionne toutes les personnes qui se réclament du judaïsme, on arrive à 7 millions et demi. C'est très intéressant. Et la différence qu'il y a essentiellement entre Israël et l'Amérique du Nord, c'est que Israël est un État juif, c'est un État où le judaïsme est défini légalement, c'est un État qui repose sur le système des communautés religieuses, qu'on appelle traditionnellement d'un mot turc le système du millet, et tandis que l'Amérique, comme vous savez, est un pays de séparation de l'Église et de l'État, de liberté religieuse réelle. Ce n'est pas du tout un pays anticlérical, mais c'est un pays où finalement on fait ce qu'on veut et on peut faire notamment sa vie religieuse à la carte. Donc nous avons deux très grandes communautés à peu près de même importance numérique, mais avec des profils, des réponses à la question qui est juif, qui sont extrêmement différentes. Alors, juste pour mémoire, il faut quand même en parler, juste pour mémoire. En Europe aujourd'hui, et alors là, systématiquement, je vais employer plutôt la définition de Pew, donc la plus inclusive, que la définition orthodoxe. On pense que, donc, en Europe, il y a, on peut dire, entre 2 et 3 millions de juifs, selon, dans toute l'Europe. Hein? Toute l'Europe, sauf la Russie. Je mets la Russie à part pour beaucoup de raisons. La Russie, enfin, la Russie et l'Ukraine, je les mets de côté. L'Europe, en gros, l'Union européenne, plus les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui pourraient en faire partie, comme la Suisse, par exemple. Donc, il y a entre 2 et 3 millions de juifs. 2, si l'on essaie de se rapprocher de la définition orthodoxe. 3, si l'on va vers une autre définition. Dans le reste du monde, il y a des chiffres qui sont très approximatif, on n'a pas de notion très précise, mais enfin on peut penser qu'il y a encore à peu près 1 million de juifs dans l'ex-URSS, certains disent 1,5 million, c'est très difficile de savoir parce que le communisme a opéré un brassage des populations et des identités tout à fait considérable. Et puis à nouveau dans une marqueterie d'autres régions du monde, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Australie. Donc, dans toutes ces régions, quand on met les gens les uns à côté des autres, on pourrait arriver également à peut-être 1 million de juifs. Quand on dit peut-être, on est dans le flou total. On voit apparaître soudain quelqu'un dont personne n'aurait pensé qu'il est juif, et tout d'un coup, c'est la fameuse loi du grain du clou de girofle, la personne dit, mais enfin, moi je suis juif, et j'ai décidé maintenant de récupérer mon judaïsme, et voilà. Donc il y a ce fameux retour qui s'opère. Bien entendu, pour mémoire, et je pense que ceci est très important, il faut quand même mentionner deux effondrements, deux catastrophes. La première, vous en avez bien entendu parler, c'est la Shoah, l'Holocauste. On a parlé de 6 millions de victimes. Après, en ne comprenant pas certaines recherches, on était descendu à 5 millions de victimes. Et depuis l'ouverture des archives soviétiques qui a permis de vraiment mieux comprendre beaucoup de choses, on est en train de dire maintenant plutôt qu'il y aurait eu jusqu'à 7 millions de juifs exterminés en très peu de temps par l'efficacité nazie. Et puis, il y a l'autre phénomène, c'est la disparition du judaïsme des pays d'islam. Il y avait dans l'ensemble des pays d'islam à peu près, un peu moins peut-être, à peu près 1 million de juifs. Aujourd'hui, il ne reste que quelques milliers de juifs dans très peu de pays musulmans. Il y a eu, il faut bien dire les choses comme elles sont, une expulsion en très peu d'années de judaïsme qui, jusque-là, avait été profondément implanté dans ces pays et avait participé de mille et une manières à la vie et à la culture de ces pays. Vous serez peut-être curieux de savoir comment les choses se balisent dans notre pays, la France. Alors la France, elle a une particularité, c'est que la moitié des juifs européens sont en France. La France est devenue, et c'est une révolution, je crois qu'on ne mesure pas suffisamment, l'importance, la France est devenue, entre, je dirais, l'après-guerre et l'an 2000, est devenue un très grand pays juif, et quelle que soit la définition du judaïsme que l'on retient, on est toujours d'accord pour dire que la moitié des juifs européens sont français. Si vous prenez une définition étroite, donc la moitié des juifs, selon la définition étroite, sont français, si vous prenez une définition contraire très large, la moitié, à nouveau, sont français. Les juifs français d'aujourd'hui sont, pour une part, les descendants de gens qui n'ont jamais quitté le territoire français. Il y a des régions de France où les juifs ont toujours existé. Je pense en particulier à l'Alsace ou encore au comtat venaissin. Les hasards de l'histoire ont fait que les communautés locales n'ont jamais été expulsées, ont toujours été là. Beaucoup de juifs sont venus ou revenus en France, revenus parce que souvent c'était les descendants d'expulsés d'époques antérieures qui revenaient en France dès l'époque de, en fait pratiquement dès la Renaissance, des communautés juives se sont reconstituées en France. Et puis il y a eu après la Shoah, qui s'est traduite par la disparition d'environ un tiers des juifs vivant en France en 1939. Après la Shoah, il y a eu de très, très grands apports démographiques juifs. Il y a eu, d'une part, c'est l'apport le plus important. Oui. Bon. Alors, en deux mots, il y a eu, je le mentionne quand même, ça a son importance, il y a eu un énorme afflux de juifs de l'Empire méditerranéen français, c'est-à-dire de juifs français d'Algérie, de juifs des protectorats du Maroc et de Tunisie, de juifs venus de l'Égypte, terre sous influence française, de juifs venus de Syrie et du Liban, autres pays sous influence française, de juifs venus de Turquie ou d'Iran, pays sous influence culturelle française. Ces juifs sont donc venus en France et il y a eu aussi un nombre assez important de rescapés de la Shoah qui sont arrivés en France à cette époque. Le point important sur lequel je vais insister, c'est que lorsqu'on analyse de très près les statistiques religieuses juives, enfin les statistiques religieuses françaises, qui sont essentiellement les statistiques les plus importantes, il y a une enquête sur le comportement religieux des Français qui est faite chaque année. L'ennui, c'est que d'une année à l'autre, ce n'est pas toujours exactement les mêmes catégories.